Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Marianne Saint-Jacques, médiatrice culturelle en bande dessinée franco-ontarienne, qui a notamment été l'antenne canadienne et québécoise du site web français Actua BD. Marianne Saint-Jacques, salut.
Salut Jean-Dominique.
Il y a une éternité qu'on s'est parlé. D'ailleurs, en préparant l'entrevue, je pense que la dernière fois qu'on a échangé, c'est par courriel, puis je pense que c'est avant la COVID même.
Dernière fois que je t'ai vu, j'étais juste comme entrecroisée très rapidement dans un salon du livre ou un festival de la bande dessinée, puis c'était avant la COVID. Donc ça, oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas échangé de vive voix.
Tu sais que ça, là, ce que tu viens de dire, c'est généralement ce que les gens me disent. La dernière fois que je t'ai vu, c'était en coup de vent. Ouais, coup de vent is my middle name. Alors, Marianne Saint-Jacques, très heureux de te recevoir à l'émission. Estimé collègue, puisque tu travailles dans le domaine de la médiation culturelle en bande dessinée, tu as œuvré notamment pendant de nombreuses années pour le site Actua BD. Tu étais l'antenne canadienne et québécoise de ce site toujours actif. Tu étais là de 2008 à 2022, ce qui est quand même un long moment, là.
J'ai commencé à écrire pour Actua BD quand j'étais aux études, en troisième année de baccalauréat. Puis c'est ça. Ça a un peu grandi avec moi, cette expérience-là. Puis,
Mais dis-moi, comment ça s'est présenté? Parce qu'en 2008, l'Internet n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Hein, ce que c'est aujourd'hui. Donc, oui, il y avait des plateformes, mais quand même, comment Actua BD est venu te recruter? Comment ça s'est passé, ça?
Comme j'ai dit, j'étais au baccalauréat, j'étudiais en littérature, ce qui veut dire que je lisais des grosses briques, des romans, des pièces de théâtre, de la poésie, mais genre à n'en plus finir. De temps en temps, j'avais besoin d'un petit, une petite pause, fait que j'ai recommencé à lire de la bande dessinée à ce moment-là. J'en avais toujours lu beaucoup, mais comme beaucoup de gens, je pense, vers l'adolescence, on se dit, ah, on passe à autre chose, on a l'impression qu'on est un peu trop vieux pour ça, parce que ce qu'on lisait, c'était de la bande dessinée jeunesse ou de la bande dessinée tout public. On se rend pas compte encore qu'il y a de la bande dessinée plus adulte. Donc, c'est ça, je suis rendue en troisième année d'université. En Ontario, c'est 4 ans, un programme universitaire de premier cycle. Donc, je décide de prendre une petite pause de La Princesse de Clèves, puis je me lance dans l'écriture de La Princesse de Clèves, effectivement. Puis je me lance dans la lecture de bande dessinée. Puis là, je décide de commencer à écrire sur la plateforme Blogspot. Là, on pouvait tous s'ouvrir un petit blog là-dessus.
Ah ben oui,
Fait que je m'ouvre un
les
petit
belles
blog
avis.
anonyme. Puis là, je parle de mes lectures, puis tout ça. Puis à un moment donné, je reçois un courriel d'Actua BD qui dit « Bon, on cherche quelqu'un au Canada. Est-ce que ça vous intéresse? » Donc, voilà, c'est comme
Wow!
ça.
Donc, recruter sur les internets, c'est quand même génial, ça.
Oui, c'était une belle surprise. Puis moi, je dis rarement non. Surtout dans ce temps-là, je disais rarement non à des projets ou à des propositions. Donc, c'est toujours intéressant de voir juste où ça pouvait me mener, là.
Ben d'ailleurs, la bande dessinée s'est invitée dans le cadre de tes études parce que tu as rédigé un mémoire sur Anki Bilal. C'est-tu une
Oui,
thèse ou un
c'est
mémoire?
vrai. Oui, au Québec, on appellerait ça un mémoire de maîtrise.
Ouais.
Où j'étudiais à l'Université d'Ottawa, on appelait ça une thèse de maîtrise, parce qu'on pouvait faire un mémoire qui était beaucoup plus court,
OK.
ou la thèse de maîtrise qui était environ une centaine de pages sur Anki Bilal. Puis c'est drôle que tu m'en parles parce que tout à l'heure, je suis allée à la bibliothèque municipale, puis je viens juste de sortir Bug, tome 4 d'Anki Bilal. Donc,
Ouais.
ça fait encore partie de ma vie.
Ah oui, c'est vrai, le nouveau tome est paru, ouais.
Exactement.
Ouais, j'ai un petit peu d'arriérage. C'est assez glaçant, lire ça, Bug, ne trouves-tu pas? Il me semble que, tu sais, la prémisse de, si je me souviens bien, la prémisse de Bug, c'est Internet plante et l'humanité est laissée face à elle-même.
Oui, c'est pas mal ça.
En fait, c'est un
Mon
écoulement.
appréciation personnelle des 3 premiers tomes est, t'sais, relativement mitigée, là,
Ouais.
parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de répétitions par rapport à la tétralogie du monstre, par rapport à la trilogie
Ouais.
qu'il y avait avant, par rapport à la trilogie Nick Coppel. Donc, des fois, je trouve qu'on ressasse un peu les mêmes thèmes, mais je ne bouderais pas mon plaisir de lecture pour autant, là.
Mais d'ailleurs, tiens, à brûle-pourpoint, puisqu'on parle d'Anki Bilal. L'as-tu déjà rencontré d'ailleurs, Anki Bilal?
Oui, une fois
Ouais.
au Salon du livre de Montréal de 2019, je crois, quand il est venu.
Ah bon ben OK, oui, j'avais
Puis,
animé une causerie avec lui, il est gentil, hein?
ben non, mais je veux dire, je l'ai rencontré à la table de dédicace, là.
Ah
Puis
oui, OK.
ça adonnait que Radio-Canada était là. Donc, il y a une vidéo de moi à Radio-Canada qui rencontre Henri Bilal à la table de dédicace, mais c'était vraiment genre un petit 30 secondes, là. Tu sais, il a signé mon livre, on a pris une photo, ça a été
Et est-ce que
capturé
tu
par
lui as dit
Radio-Canada.
que tu avais consacré une thèse à son sujet?
Oui, mais ce qui est arrivé, c'est que pour avoir le droit d'utiliser les images dans ma
Ouais.
thèse, j'avais écrit à son éditeur pour demander les droits. Donc, puis là, l'éditeur m'avait réécrit: Ah, Anki Bilal vous accorde les droits, mais tu sais, vous devez remplir telle condition. Donc, tu sais, quand je l'ai rencontré, j'ai juste dit: Ben là, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je le connais pas, je veux pas être trop fangirl, je vais avoir 10 secondes, donc qu'est-ce que je peux lui dire? J'ai dit: Ben merci de m'avoir accordé les droits. Donc, tu sais, c'est ce qu'on appelle un humble brag, là, comme en
Ouais.
passant, j'ai écrit sur vous, là, mais ouais, c'est ça.
Et si tu avais un album, un seul livre de Bilal à recommander, ce serait lequel?
Ça, c'est dur.
Ouais, ben je sais.
L'intégrale de la tétralogie du monstre.
Mais tu
Oui, je triche un
triches
peu. Parce que ma thèse de maîtrise portait sur la
un peu, là.
tétralogie du monstre.
OK. Ouais.
Mais sinon, je pense que la femme piège, c'est vraiment l'album le plus intéressant.
Ah oui, OK. Moi, je suis
Ouais.
vieux, hein, Marianne. Je t'aurais dit Partie de chasse. En fait, je
Oui, mais ça, c'est un album vraiment emblématique,
Ouais.
vraiment iconique. Je pense que c'est le début d'Anki Bilal comme on le perçoit aujourd'hui. Parce que moi, j'avais lu tout ce qu'il avait fait auparavant, en tout cas, tout ce que j'avais pu mettre la main dessus, là, parce qu'il y a
Ouais.
des trucs qui sont difficiles à trouver. Mais moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'est son film Immortel ad vitam.
Ah, oh, mon Dieu, oui.
Ça, c'est
Ouais.
comme en 2004 à peu près. Ça jouait à Télé-Québec. Je l'ai vu à Télé-Québec. Puis, je trouvais que c'était étrange comme film. C'était très atmosphérique. Comme j'ai dit à l'époque, j'étudiais en littérature. Je tripais ben gros sur Baudelaire. Donc, ça venait me chercher. Puis, c'est comme ça que j'ai découvert Anki Bilal, en fait. C'est grâce à Télé-Québec, puis à ce film-là.
Ah, ouais.
Ouais.
C'est drôle. Drôle de parcours, hein, quand même.
Ouais.
Hey, moi, j'ai vu ce film-là dans une salle de cinéma complètement vide, Marianne. J'étais le seul spectateur au AMC Forum à Montréal, dans l'ancien Forum.
Mais je pense que c'est un film qui est fait pour être vu. Comme ça, c'est un film d'atmosphère, c'est pas du tout un film d'histoire. Il y a juste trois acteurs, tous les autres, c'est comme des personnages animés, mais
Ouais.
animés assez grossièrement, là. C'est pas du tout comme de l'IA générative comme aujourd'hui, là. Ça a l'air plutôt comme des personnages de jeux vidéo de Nintendo 64, là.
Ouais, fait qu'imagine
Puis...
sur un écran géant, là, c'est.
Mais c'est un film d'atmosphère, je sais pas,
Ouais.
il y a quelque chose qui est venu me chercher dans ce film-là.
C'est vraiment drôle. Je m'attendais pas à ce
Non,
qu'on parle autant d'Anki Bilal aujourd'hui.
hein?
Mais donc la bande dessinée est revenue dans ta vie en force, en quelque sorte, parce que
Oui, quand même.
elle s'est réintroduite dans ton parcours scolaire, puis ensuite dans ton parcours professionnel.
Mais quand on dit elle s'est réintroduite dans mon parcours scolaire, là, je l'ai pas. Il n'y avait pas nécessairement des cours de bande dessinée pour moi à l'école, à l'université, là. C'est juste que moi, je me suis. J'ai recommencé à m'intéresser personnellement à la bande dessinée. Puis là, j'ai rencontré des profs dans mon département qui s'intéressaient. Mon directeur de thèse, on va le saluer, Michel Fournier, avait un immense poster de quatre, la dernier tome d'Anki Bilal, de la tétralogie du monstre, dans son bureau. Donc, quand j'ai vu ça, évidemment, là, j'ai eu un coup de cœur. J'ai dit: Oh mon Dieu, mais vous aimez Anki Bilal, mais moi aussi. Puis là, en tout cas, c'est comme ça que j'ai pu travailler là-dessus. Puis j'ai pu avoir la chance de l'avoir comme directeur à ce moment-là, là.
Oui, parce que ma question, c'était comment on vend ça à cette époque-là, tu sais, consacrer une thèse sur une bande dessinée. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas mal plus présent dans le cursus scolaire à différents niveaux. Mais tu sais, à l'époque, quand même, surtout dans une formation en littérature, j'imagine que la bande dessinée à l'époque n'était pas vue en tant qu'égale de la poésie ou que le théâtre ou que.
Ben, honnêtement,
littérature.
j'ai pas eu de réticence. Non, les gens étaient quand même très ouverts. Il y avait un autre professeur au département qui s'intéressait beaucoup à Tintin aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas comme si j'étudiais à l'UQO, là, où il y avait vraiment des spécialistes. On salue
Ouais.
nos amis Sylvain Lemay, Jean-Charles Andrieu de Lévis.
Ouais.
Mais non, quand même, j'avais la chance d'avoir des professeurs qui s'intéressaient à ça. Puis. Oui, non, il n'y a pas eu de réticence. Il y avait déjà eu une thèse qui avait été soutenue au département, une thèse de maîtrise sur Claire Bretéché quelques années plus tôt. Donc,
OK.
c'était même pas la première dans mon département, là.
Et donc, en 2008, lorsque tu te mets à écrire sur la bande dessinée québécoise et canadienne pour le site Actua BD, le paysage est fort différent d'aujourd'hui, là.
Il y a vraiment moins de choses qui se passent.
Ouais.
Puis moi, je connais rien en passant, là. Quand on me dit, veux-tu parler de bande dessinée québécoise? Moi, j'en lis aucune à ce moment-là. Donc, c'est ma découverte de la bande dessinée québécoise en même temps aussi. Il y avait les 400 coups, barre oblique, mécanique générale, qui en
Ouais.
faisait un peu. La pastèque était là dans le paysage, c'est sûr, mais pas l'acteur qu'on connaît aujourd'hui. Papa n'existait pas.
Il y avait Mécanique Générale.
Oui, mécanique générale, mais comme
Glénat BD, ça commençait à cette
sous son
époque-là.
ancienne forme, je dirais,
Ouais.
pas dans un gros groupe d'édition. Donc, peut-être que c'était un bon moment pour commencer parce que aujourd'hui, je pense que je me sentirais dépassée par tout ce qui se fait, là, t'sais.
Et
C'est plus
sans ça,
facile d'entrer en douceur quand le milieu est plus petit, quand le paysage est plus petit, on peut se former plus rapidement, là. Ce qui veut pas
mais
dire qu'il n'y en avait pas eu avant, comme dans les années 80, ça avait été des années très fastes avec Crow et tout.
ouais.
Mais là, en 2008, c'était vraiment comme les balbutiements de ce qu'on connaît aujourd'hui.
Et avais-tu à cette époque-là, est-ce que tu te souviens des impressions, des sensations que tu avais quand tu couvrais la scène locale? Parce que c'est juste avant, tu parlais de Blogspot tantôt. Là, on arrive dans les blogs avec Iris,
Oui.
avec Xviane, avec Caton, avec Caroline Brault, etc. Y a tout, en fait, tu commences à un moment où il y a un écosystème qui est vraiment en train de passer à une autre étape.
Oui, puis je veux dire, quand on a 20 ans, on est insouciant, là. Quand on a 20 ans, on est très confiant dans nos habiletés, on est insouciant. C'est avec l'âge, puis le recul, puis l'expérience qu'on commence à avoir un petit peu plus de capacité pour auto-analyser ce qu'on fait, se demander est-ce que c'est bon, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que, bon, ben, à cet âge-là, moi, je pensais que j'étais le top du top, là. Je me posais pas les mêmes questions que je me poserais aujourd'hui, là.
C'est le fun, l'insouciance, hein?
Ah, l'insouciance de la jeunesse, si je pouvais retrouver ça, là.
Et donc, ton rapport avec Actua BD, tu sais, à ce moment-là, Actua BD, il y a quelqu'un quelque part qui a une intuition ou qui constate qu'il se passe quelque chose
Ouais.
ici au Québec, puis au Canada, parce qu'il faut le dire, hein?
Au Canada aussi.
Tout à fait. Il y a des structures comme Conundrum Press, évidemment, Drone and Quarterly qui était là déjà depuis un certain moment. Dans l'Ouest canadien aussi, il y a des belles choses qui se passent.
Ouais, Made in Portage Press, High
Ouais.
Water Press.
Ouais, des structures qui sont toujours aujourd'hui opérationnelles, hein, qui poursuivent leur travail éditorial. Est-ce qu'à ce moment-là, quand Actua BD vient te chercher, est-ce que tu as des paramètres précis?
On m'a plus ou moins laissé carte blanche, puis moi j'y allais avec ce qui était à portée de main. Donc évidemment, moi j'habite à Ottawa, donc mon premier reportage c'était au Salon du livre de l'Outaouais, ou par la suite au rendez-vous de la BD de Gatineau. Donc, puis en plus, je suis aux études là, à ce moment-là, donc mes déplacements sont limités, mon budget est limité. Donc non, on m'a plutôt laissé carte blanche, puis. C'est ça, je proposais des trucs en fonction, soit en fonction des services de presse que je recevais ou les événements locaux ici dans la région, puis par la suite, plus à Montréal ou à Québec, mais c'est ça.
Et qu'est-ce que tu as trouvé dans toutes ces années-là de couverture? Deux questions.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ce travail de couverture-là? Et qu'est-ce qui t'a apporté les plus grandes joies dans ce travail-là aussi? Parce qu'il faut le dire, hein, tu étais très, très assidu, tu as une belle plume en plus.
C'est
Tes
gentil,
articles
merci.
étaient nickel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, je tiens vraiment à te lever mon chapeau. Parce que quand on te lisait, quand on te lit, on le sait que c'est du travail et on sent tout le sérieux de ta démarche. Moi, je trouve ça triste que tu n'écrives plus sur la bande dessinée en tant que telle, là, que tu sais, je ne puisse pas ouvrir mon Internet et me dire, tiens, je vais aller lire la plus récente chronique de Marianne.
Ben,
Donc, ouais,
ça me...
qu'est-ce qui t'a dans toutes ces années-là pour Actua BD, qu'est-ce que tu es le plus fier, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette expérience-là, puis qu'est-ce qui t'a peut-être exigé un peu plus qui a relevé un peu plus du domaine du défi?
Ben, je pense qu'il m'a plu le plus, c'est les rencontres, que ce soit avec les auteurs, que ce soit avec les autres collègues comme toi, comme... les autres chroniqueurs que je rencontrais, les spécialistes, des gens qui sont devenus des amis. Salutations particulières à Francis Hervieux.
Oui.
C'est vraiment les rencontres. Salutations à Maëlle Ranoux. Ça m'a ouvert des portes. J'avais plein de contacts, de correspondants en Europe. Toute l'équipe d'Actua BD. Salutations à Didier Passamonique. Donc, aussi à travers la CBD, l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Donc, ça, c'était le mieux. Je pense que c'était les rencontres. Le plus difficile, honnêtement, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi aussi, mais je trouve que plus on écrit, plus c'est difficile. Parce que
Ah oui.
plus on écrit, comme j'ai dit, j'ai plus cette insouciance de la jeunesse. Donc, plus on est critique dans notre travail, plus on passe de temps à peaufiner un texte, à peaufiner notre réflexion, puis. Personnellement, ce qui arrivait, c'est que ce qu'on me proposait beaucoup, ce qu'on propose beaucoup, en fait, tous les éditeurs nous proposent à peu près toute leur production. Puis, autant il y a des pépites extraordinaires, puis je pense qu'on fait un bon travail de les t'sais, de mettre la lumière là-dessus, autant il y a beaucoup d'ouvrages qui sont pas nécessairement mauvais, mais t'sais, sont très moyens, on va dire. Puis, qu'est-ce que tu veux dire sur un ouvrage moyen? C'est très difficile. Un ouvrage qui est très mauvais, tu peux dire que c'est mauvais, quoique, encore une fois, c'est pas plaisant de faire ça. C'est pas plaisant de descendre un jeune auteur ou une jeune autrice. C'est pas plaisant de descendre un éditeur qui est une petite structure, qui
Non, parce
roule pas
que.
sur l'or. Donc, il y a déjà ça. Puis en plus, tu rencontres les gens à chaque événement. Donc, tu sais, c'est sûr que ça, c'est déplaisant aussi de rencontrer des gens que tu as descendus. Donc, bon. Donc, ça, c'est pas plaisant. Puis ensuite, ce qui est pas plaisant, c'est de dire, ben, tu sais, c'est bof-bof, cet ouvrage-là. Tu sais, c'est ni bon, ni mauvais. Ou des fois, c'est pas que l'ouvrage est pas bon, mais c'est que, comme, tu sais, il s'adresse pas à moi particulièrement. Personnellement, tu sais, de la BD très commerciale, d'aventure pour un jeune public, ça peut être excellent. Je ne suis pas ce public cible. Alors que moi, je préfère, t'sais, les enquêtes, les reportages, ça, ce sont mes goûts personnels. Donc, au fil du temps, je trouvais ça de plus en plus difficile d'écrire parce que, à part juste porter au nu ce que je trouvais bon, je trouve ça difficile d'écrire un article sur une nuancée sur un album qui m'a pas tant plu, mais qui n'est pas nécessairement mauvais non plus. Puis aussi, je préférais faire l'analyse à de la critique pure. Comme si tu regardes mes derniers articles, c'est beaucoup plus de l'analyse que de la critique. T'sais, à la fin, je dis, ah oh oui, c'est bien, lisez-le, achetez-le. Mais comme le long article, c'est plus l'analyse des thèmes ou des symboles ou des choses comme ça.
C'est intéressant que tu dises ça parce qu'effectivement, je te dirais que de mon côté, c'est un peu le même parcours. C'est qu'à un moment donné, une fois que tu as trouvé ton angle d'attaque pour parler d'une bande dessinée, ben tu te lances, mais moi aussi, il y a un moment où j'ai envie d'en dire plus, ou en tout cas, j'ai envie d'aborder le médium d'une manière différente parce que, tu sais, on évolue dans notre travail, comme tu le dis si bien, et que tout à coup, dire c'est bon ou c'est pas bon, ou ça s'adresse à tel type de personne, c'est bien, mais je pense que quand on délaisse la critique puis qu'on se dirige un petit peu plus vers l'analyse, ben, ça ouvre des perspectives. Puis il y a le plaisir de l'écriture aussi. Dans l'analyse qui est beaucoup plus grand, à mon humble
Ouais.
avis.
C'est un biais, c'est comme une déformation professionnelle pour moi aussi, parce que en littérature, on lisait beaucoup de choses qu'on n'aimait pas, mais on les analysait pareil.
Oui, moi je peux te dire une chose. Mes études en théâtre, là, puis tu sais, s'il y a une forme que je trouve ardue à lire, c'est un scénario de théâtre ou un scénario de cinéma. Je veux dire, tu sais, ça, puis se mettre du vinaigre dans les yeux, c'est pareil, là. Pour moi, le plaisir de lire du théâtre, mettons, à part pour Samuel Beckett ou Jean-Marie Coltès ou des grandes plumes comme ça, je trouve ça difficile.
Fait que toi, tu tripes pas sur la cantatrice chauve, mettons.
Ah non, 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 attention! Attention! Ionesco, oui. Même que
OK.
j'ai joué, moi, j'ai joué le pompier dans la carte.
C'est
Oui,
vrai.
j'ai joué le pompier, moi. Ouais.
C'est ma pièce préférée.
Oui, mais ça, à la lecture, il y a une convention avec Ionesco, comme Beckett d'ailleurs, où tout à coup, ces auteurs-là ont. Alors, où ils sont dans la didascalie à l'outrance, où
Où il y en a
il
aucune.
n'y en a aucune. Donc, embrasse l'une ou l'autre des approches. Mais dans la lecture de ce type de littérature-là, moi, je trouve ça très, très ardu. Et donc, moi aussi, tu sais, j'ai lu du Paul Claudel. Je veux dire, toutes mes années d'insomnie, je me disais, ben, je pourrais relire les souliers de satin, le soulier de satin de Claudel, tu sais. Mais finalement, je me disais que même insomniaque, j'étais mieux de lire de la bande dessinée ou de lire autre chose d'un peu plus.
Lis quelque chose de plaisant. Tu sais, lis
Oui,
quelque
c'est
chose qui va
ça.
te faire plaisir, là.
Exactement. Oui, donc l'analyse, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Marianne, mais c'est ça aussi, c'est que sur la durée, quand on fait ce travail-là, comme toi, tu sais, tu l'as fait plus qu'une génération. Donc, comme lectrice, est-ce qu'il t'est arrivé parfois, en lisant une bande dessinée, de dire, attends, ça, je l'ai lu il y a 10 ans par un autre auteur ou une autre autrice qui a abordé une thématique un peu de la même manière. Tu sais, moi, c'est beaucoup chez les Européens que je vois ça, puis chez les Américains aussi, où là, tout à coup, on se dit, ouais, mais attends un peu, ça, Trondheim, il l'a fait il y a 20 ans, là. Pourquoi je suis en train de relire ça aujourd'hui?
Non, je pense pas que j'ai eu cette impression-là. Mais des fois, tu sais, c'est le fun de noter des références ou de l'intertextualité à d'autres œuvres, que ce soit voulu ou non par
Ouais.
l'auteur ou l'autrice. Ou, tu sais, comme chroniqueur, on peut vouloir flasher un peu puis démontrer nos connaissances. Mais
Ouais.
non, tu sais, pas tant. Puis de toute façon, tout a déjà été dit, donc c'est pas.
Ah ben oui, ça.
Ça, c'est la littérature, la bande dessinée, le théâtre, peu importe, tout est un éternel recommencement. Donc, non, j'ai pas eu trop de déjà-vu, je pense.
Parlons un peu plus tôt de ton implication dans l'ACBD, qui est
Oui.
l'Association des critiques et journalistes en bande dessinée. Tu as d'ailleurs, tu as piloté pendant un an, je pense, l'antenne québécoise, non?
Ben, pas tout à fait. C'est que pendant une édition, j'ai été co-coordonnatrice du prix
Ah oui, voilà,
à
oui.
CBD Québec avec Nicolas Fréret. Puis là, l'année suivante, je l'ai fait toute seule. Puis après ça, j'ai passé le flambeau à. Je pense que Nicolas l'a refait une autre année. On a passé le flambeau à Raymond Poirier.
Ouais.
Donc, puis là, je pense maintenant c'est Sylvain Lemay qui s'en occupe. Donc c'est ça. J'ai piloté et copiloté deux éditions du prix. Puis j'étais aussi au bureau, mais seulement pour quelques mois, malheureusement. C'était en plein COVID. Puis à un moment donné, ma santé là, me permettait plus de m'impliquer autant, là.
Tu sais que, ouais, c'est ça, tu parlais de Sylvain Lemay. Il reste, je pense qu'il y a Robert Laplante. Il reste très, très peu de gens là, à l'antenne québécoise de la CBD présentement.
Oui, parce que aussi Raymond Poirier est devenu conseiller municipal à Québec. Donc, il a entamé un nouveau chapitre de sa vie. Il y a Jean-Charles Andrieu de Lévis,
Oui, c'est vrai, hein?
qui est maintenant à Gatineau. Donc, il y a lui. Après ça, je suis pas trop dans les nouvelles, là. Je connais pas les nouveaux adhérents ou quoi que ce soit parce que je suis plus membre de la CBD, parce que je n'écris plus. Donc, il n'y a pas vraiment de raison d'être membre d'une association quand on n'est pas actif, mais oui, c'est vrai, il y a beaucoup moins de gens qu'il y a 10-15 ans, là, au Québec, certains.
T'es également beaucoup impliqué, et ça, je suis vraiment curieux de t'entendre là-dessus. Tu animes un club de lecture
Oui!
à la bibliothèque de l'Université
D'Ottawa, mon alma
d'Ottawa.
mater. Oui,
Ouais.
ben, je travaille à la bibliothèque maintenant depuis 3 ans, à peu près un petit peu plus que 3 ans. Donc, puis là, on m'a confié des mandats francophonie. Donc, j'ai dit, ben, voici ce que je propose pour créer une programmation culturelle en français. Genre, on va animer un club de lecture de bande dessinée. Là, mes patrons font, ou mes patronnes font, OK, peut-être. Mais je dis, ça va être basé sur des thèmes, des valeurs stratégiques, de notre plan stratégique. OK, parfait. Donc, on a eu plusieurs sessions. On a eu une session sur les voix autochtones. On a mis à l'honneur des créateurs-créatrices autochtones. Une séance sur le féminisme avec des autrices qui traitaient de ça dans leurs ouvrages. Une séance sur l'environnement. Une séance sur la fierté. Deux esprits LGBTQIA+. En janvier, on vient d'avoir une séance sur l'accessibilité. On a lu La Méduse, on a
Ouais.
lu Ma vie en lo-fi, ou Ma vie en lo-fi, puis on a
Ouais, de Simon
lu,
Labelle, ouais.
exactement, puis on a lu aussi La différence invisible sur l'autisme de Julie Dachet, Mademoiselle Caroline.
Ouais.
Fait que là, il nous reste deux séances, une en février pour le mois de l'histoire des Noirs, puis une en mars parce que c'est le mois de la francophonie. Je pense que c'est la séance à laquelle j'ai le plus hâte parce que c'est mon thème préféré. Donc, on va lire La petite Russie de
Ouais.
Francis Desharnais. On va lire Aïe, Dieu Pougon.
C'est formidable, ça
Hein?
aussi.
C'est fort.
Ah, que c'est formidable.
On va
Ouais.
lire La petite Russie, Aïe, Dieu Pougon. Oh mon Dieu. Éléments de langage, cacophonie en francophonie, sur la chute de Michael Jean à l'Organisation internationale de la francophonie.
Ça, je l'ai pas lu.
Ouais, non, c'est par son ancien, je pense que c'était son chef de communication. C'était quelqu'un qui travaillait pour elle dans son cabinet,
OK.
Bertin Leblanc, et un illustrateur dont j'oublie le nom, Paul Gros, je pense qu'il s'appelle, ou Paul Gau, un des deux. Puis c'est ça, c'est sur toutes les tractations internes, les petites chicane de coulisses à l'Organisation internationale de la francophonie. C'est vraiment bon. Si t'aimes les potins politiques, là, c'est très intéressant. Puis, Michaëlle Jean, c'est une ancienne chancelière de l'Université d'Ottawa. Donc, c'est elle qui m'a remis un de mes diplômes, je crois. Donc, ça donne bien. Puis, on va aller aussi une bande dessinée franco-ontarienne qui s'appelle Un mystère en Ontario français, l'ordre de Jacques Cartier. Donc,
Alors dis-moi, qui participe à ton club de lecture, là? Mettons, au niveau démographique, ça a l'air de quoi, là, les gens
c'est
qui...
ouvert à toute notre communauté universitaire.
OK.
Donc, ça peut être des étudiants, des membres du corps professoral, des membres du personnel. Ça dépend vraiment d'une séance à l'autre. C'est sûr que c'est plus, jusqu'à présent, c'est plus populaire avec les membres du personnel. Puis, il y a des gens qui viennent juste pour pratiquer leur français aussi. Il y a des gens qui viennent juste pour le social. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils aiment la bande dessinée. Donc, c'est intéressant, ça m'a permis de faire des rencontres intéressantes avec des collègues sur le campus. Aussi, je fais venir des invités spéciaux autant que possible sur chaque séance. Comme là, la séance passée, on a eu des représentants d'organisations qui traitent d'accessibilité sur le campus, mais aussi pour la séance virtuelle, on a eu Pietro Sacca, qui est un étudiant au doctorat à l'UQO, qui se spécialise sur la représentation de l'autisme dans la bande dessinée. Donc, on a eu une présentation de Pietro sur la bande dessinée La différence invisible. Là, pour la prochaine, vu que c'est le mois d'histoire des Noirs, j'ai une bande dessinée au programme qui a été coécrite par un professeur historien à l'Université Nipissing et l'Université Laurentienne. C'est un spécialiste de l'histoire de l'Afrique et de l'histoire des Noirs au Canada. Il s'appelle le professeur Amadou Ba. Donc, on a fait un petit entretien préenregistré que je vais montrer. Puis, je vais avoir pour la séance virtuelle, je vais avoir une personne de l'organisation à Toronto qui a publié la bande dessinée qui va être là aussi. Donc, j'essaie d'ouvrir ça un peu plus large. Puis, de créer des rencontres, puis d'utiliser la bande dessinée finalement comme un vecteur pour tisser des liens un peu plus larges dans la communauté universitaire.
Et ce que je trouve très intéressant dans cette démarche-là, et ça peut sembler anodin, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus, mais parler de bande dessinée francophone à Ottawa, Bon, évidemment, Gatineau est juste de l'autre côté, mais quand même, est-ce que ça représente un certain défi? T'sais, tu disais qu'il y a des gens qui se pointent pour pratiquer leur
Oui,
français,
parce
entre
qu'on
autres.
est une université bilingue, donc il y a des
Oui.
gens qui étudient en... qui sont des non-francophones, la plupart du temps, soit des allophones, soit des anglophones, qui font un parcours d'immersion en même temps, donc ils cherchent des occasions de pratiquer leur français. Ou juste des employés pour qui le français est leur deuxième langue officielle, donc ils cherchent des occasions de socialiser en français. Mais non, je veux dire, quand même, à peu près 30% de la population d'Ottawa est francophone, puis... j'ai pas les chiffres exacts à l'Université d'Ottawa, mais il y a quand même une bonne proportion d'étudiants francophones et de personnel francophone aussi, là.
Et donc, dans ces rencontres-là, il y a quand même plusieurs lectures à chaque fois. Tu vois, moi,
Oui.
j'anime deux clubs de lecture très, très différents, un avec des ados, un en milieu carcéral. Et c'est une lecture par rencontre.
Oui, mais là, je vais t'expliquer, c'est que c'est un peu basé sur un club de lecture qu'il y avait à la Bibliothèque publique d'Ottawa, auquel j'ai eu la chance d'assister à une couple de séances. C'était organisé par Philippe Leblanc, qui écrit pour The Comics Reporter, je crois.
Ouais, le nom me dit quelque chose, ouais.
Oui, OK. Ben lui est francophone aussi, mais il organisait un club de BD en anglais, puis il mettait plusieurs BD au programme, mais comme c'est à travers une bibliothèque, c'est-à-dire que si je mets, on va dire, La Méduse de Boom au programme. Okay? Mais on a rien qu'une copie de ce livre-là. Ben, il y a juste une personne qui peut l'emprunter puis le lire, right?
Ouais.
Donc, je mets plusieurs livres dans l'espoir que peut-être une personne va lire chaque livre. Mais je dis aussi aux gens, vous pouvez venir si vous avez lu aucun livre, puis vous voulez juste avoir des suggestions de lecture. Fait qu'il y a des gens qui m'ont
Oui.
dit, ah, j'avais un peu arrêté de lire la BD, mais là, je suis venue au club BD, puis là, ben, j'ai recommencé à en lire, ou... Tu sais, ça m'avait l'air... Ce livre-là, je vais peut-être le lire. Ça avait l'air intéressant, là.
Et qu'est-ce que ça t'apporte, contrairement par exemple à l'écriture de chroniques et de critiques que tu fais pendant très très longtemps, l'animation de clubs de lecture comme ça, qu'est-ce que ça t'apporte du point de vue personnel, du point de vue professionnel? Est-ce que ça change ton regard sur le médium de la bande dessinée, ou est-ce que ça élargit des perspectives? Je veux dire,
Ben,
qu'est-ce que ça t'apporte de différent dans ta pratique?
c'est deux publics complètement différents. Parce que quand j'écrivais pour Actua BD, c'est un médium spécialisé pour les gens qui aiment déjà la bande dessinée. Et en plus, dans le cas d'Actua BD, c'est que c'est un site principalement européen, franco-français. Oui, il y a des gens en Belgique qui lisent. Oui, il y a des gens en Afrique francophone. Oui, il y a des gens en Suisse et au Canada qui lisent. Mais tu sais, c'est un public très particulier, très ciblé. Tandis que là, je parle à des gens qui sont francophones, franco-ontariens, québécois ou allophones, anglophones. C'est pas nécessairement des gens qui lisent la BD dans leur quotidien. Donc, des fois, les gens ils viennent plus pour le thème que pour la bande dessinée aussi.
Ouais.
Donc, c'est juste deux publics complètement différents. Tu sais, je peux pas partir du... Je peux pas assumer que les gens vont connaître les auteurs à l'avance ou vont connaître les courants de bande dessinée ou les éditeurs ou des choses comme ça. Donc, c'est plus grand public, je dirais.
Mais il y a un plaisir
Ben,
justement
certains.
dans le fait d'ouvrir les perspectives des autres, puis
Ben, moi, je suis tellement contente de juste pouvoir parler de bande dessinée pendant 1 heure et demie, tu sais. Ça, déjà là, je suis contente.
c'est le fun,
C'est vraiment le fun. Puis s'il y a des gens qui me disent, quand il y a des gens qui disent, hey, j'ai lu tel livre, puis je l'ai aimé, moi, je suis comme, ah, oh, good, tu sais, j'étais pas dans le champ, là. C'était un bon choix.
oui, il y a le plaisir, hein, d'élargir les perspectives des lectrices-lecteurs. Je trouve que c'est grisant quand on réussit à faire lire une bande dessinée à quelqu'un pour qui c'était pas forcément sur le radar, et qu'en plus cette personne-là te revient par la suite et a apprécié la lecture, en tout cas.
Mais il y a des gens aussi là-dedans qui sont des grands lecteurs, des grandes lectrices, puis qui auraient lu ça ou qui auraient lu autre chose, là. C'est pas, je veux pas m'approprier leur... Tu sais, il y en a pour qui c'est un petit peu champ gauche, mais il y a des gens là-dedans aussi qui sont très bande dessinée, donc...
Mais tu sais, tu parlais que certaines personnes sont attirées par le thème. Quand tu as
Ouais.
commencé Actua BD en 2008, là, T'aurais pas pu animer un club de lecture. Ben, en tout cas, oui, t'aurais pu avec la production mondiale, mais admettons que tu t'étais donné comme barème d'animer un club de lecture juste avec la production locale.
Mais c'est mon club n'est pas que de la production locale.
Non,
C'est
non, c'est
pas.
ça.
Ouais, non. Déjà, à la base, j'ai quand même quelques traductions. On a lu Liv Strömquist, par exemple, dans La science sur le féminisme, qui est
Ouais.
suédoise, que j'aime tellement. T'sais, là, on va lire Marguerite Abouet, Clément
Est-ce que je te l'ai
Brugy
dit que
avec
c'est
Aurélia
formidable? Oui, je te
Cohn.
l'ai dit, hein? Ouais.
Oui.
Ouais,
Donc, déjà, c'est pas que de la production locale, mais
ouais.
j'essaie autant que possible de mettre de l'avant des perspectives canadienne, québécoise et même lorsque possible franco-ontarienne. Mais ouais, non, c'est ce que j'aurais pas pu. Je peux le faire maintenant parce que j'ai 15 ans d'expérience de lecture intensive de bande dessinée. Fait que
Ouais,
là, je pense
évidemment.
à des thèmes, puis je pense à des ouvrages que j'ai déjà lus, puis je sais comment ils vont bien s'aligner avec les thèmes que j'ai en tête. C'est ça la différence. C'est que maintenant, j'ai un certain bagage que j'avais pas quand j'ai commencé.
Et à la bibliothèque, justement, où tu travailles, est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une fréquentation assidue du médium de la bande dessinée par les
Oui, quand
usagers?
même.
Ouais.
Parce qu'on a un espace au premier étage qu'on appelle entre nous la médiathèque. C'est une médiathèque, mais ce terme ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui pour la plupart des gens. Quand j'étais étudiante, c'est là qu'il y avait les microfilms, là, soit dit en passant. Puis maintenant, c'est un
Ouais.
endroit où les gens jouent à la PlayStation. Et on a comme un mur entier de bandes dessinées. Oui, quand même, c'est pas mal vu, là. Ça fait partie des habitudes de nos usagers, là. C'est pas, il n'y a pas une lutte à faire, là. Les gens sont. Il n'y a pas un climat anti-bande dessinée, là.
Et de ta perspective de franco-ontarienne,
Ouais.
je serais curieux de t'entendre justement sur, ben sur la production nationale. Tu sais, en Ontario, il se fait de la bande dessinée.
Il
Je
y
trouve que.
en a.
Ouais.
Mais la grosse majorité, en fait, c'est comme. Parce que c'est ça, depuis j'ai arrêté depuis plusieurs années, je m'intéresse à ce qui se produit en Ontario français. Parce que j'ai eu la chance de suivre des cours de littérature franco-ontarienne avec Lucie Hott, qu'on salue. Puis à partir de ce moment-là, je me suis posé la question, où est la bande dessinée franco-ontarienne? Puis souvent, les gens me répondaient, ben, il n'y en a pas ou je sais pas. Donc j'ai commencé mes propres recherches. J'ai commencé, mais ce qu'on voit surtout, c'est des organisations franco-ontariennes, des organismes, des OSBL qui vont se servir de la bande dessinée dans le cadre de projets ponctuels pour faire valoir leur organisme ou transmettre des valeurs, transmettre une identité. C'est pas vraiment de la bande dessinée comme on l'entend quand on va dans une librairie, là. C'est des petits fascicules qui
Ouais.
sont des fois vendus, des fois distribués sous forme de PDF, des fois distribués par des OSBL. C'est pas vraiment de la bande dessinée qui est produite dans une logique d'édition professionnelle ou d'édition commerciale. Donc,
Il y a quelques rares cas d'espèces, mais je vais en citer un ici au Québec, chez Moelle Graphique, l'album Parkinson,
ouais.
que Marc Tessier a dirigé. Donc, c'est une
Me semble que je
réalisation.
l'ai lu, ça.
Ouais, ben ça, tu vois, c'est une réalisation conjointe.
Ouais.
C'est-à-dire que l'organisme a une version en couverture souple de l'ouvrage pour leurs usagers, et Moelle Graphique en ont produit un certain nombre en couverture cartonnée, couleur, qui est distribuée à grande échelle dans les librairies à travers le Québec. Mais c'est vrai que c'est plutôt rare, ça. C'est vraiment un réseau en parallèle.
Mais, tu sais, pour revenir à ça, il y a quand même quelques cas qu'on peut citer. Le premier cas, c'est le magazine La Revue La Pulpe, qui était à la fois
Ah ben oui.
dans les années 70, là,
Oui.
qui était à la fois franco-ontarienne et québécoise. C'était vraiment une revue régionale de l'Outaouais, d'Ottawa et de l'Est ontarien. Donc ça, c'est un bon exemple. Il y a quand même aussi Rodolphe Vincent, qui est né à Ottawa.
Oui.
Donc ça, c'est un autre exemple. Puis, plus près de l'époque actuelle, il y a quand même Michel Laframboise qui a publié, je pense, 15 albums de bandes dessinées différents,
Oui,
qui
et
habite
puis elle
à
écrit aussi des.
Hamilton.
Ah oui, c'est vrai, oui, puis elle écrit des romans aussi, c'est une
Oui, c'est
romancière.
ça.
Oui.
Donc, ça serait peut-être. Ça, c'est vraiment des exemples de bande dessinée pour la bande dessinée, là, pas la bande dessinée comme outil de communication, mais oui.
Est-ce que toi, de ta perspective de lectrice puis de médiatrice, j'imagine que tu aimerais en lire davantage de la production francophone ontarienne, distribuée à grande échelle, on s'entend là.
Oui, puis il y a aussi, faudrait que je te parle de ça, il y a une BD folklorique qui avait été publiée par comme prise de parole dans les années 70 qui s'appelait Tigeant fin voleur, qui était publiée par, oh mon Dieu, son nom m'échappe, c'est un folkloriste, un jésuite qui était très connu dans le nord de l'Ontario. Je vais faire une recherche.
Ah, mais attends, ça me dit vaguement quelque chose. Mais ça a quand même été distribué, là.
Germain Lemieux, le père Germain Lemieux, puis illustré par Luc Robert. Ça, c'est un autre exemple. Ça avait été publié par les éditions Prise de parole. Et aujourd'hui, on peut se le procurer auprès du Centre de folklore, là.
OK.
Moi, j'en ai une copie. Mais est-ce que j'aimerais en voir plus? J'imagine que oui. Mais tu sais, je veux dire, l'édition francophone en milieu minoritaire, c'est toujours. Ben, c'est un éternel combat, là. Il y a toujours. Puis l'édition en général, c'est un combat, là. Ça, tu le
Oui,
sais, j'imagine.
oui, oui.
Puis, ce qu'on m'a fait valoir souvent comme argument, c'était que c'était très cher d'éditer, de publier de la bande dessinée, comparativement, mettons, à de la poésie ou à d'autres médiums. Ça, je suis moyennement convaincue, mais c'est peut-être vrai. Parce que dans le sens où on dit c'est très cher de publier en couleur, etc., mais moi, je me dis, on peut publier en noir et blanc, là, ça le fait ça aussi.
Mais
Mais non.
d'ailleurs, je crois me souvenir que Michel Laframboise a, pendant un moment, auto-publié via la plateforme Amazon, qui est du print on demand, là.
Je sais pas si c'était CBD, par contre, c'était peut-être plus ses romans, ses nouvelles.
Mais je pense qu'elle a fait un ou deux albums de bande dessinée en noir et blanc. Il faudrait que je vérifie, là,
Ben,
mais.
je les ai ici. Veux-tu que je les monte à l'écran?
Ben oui, si t'es ça,
J'ai
go!
tout ça ici. Parce que, c'est ça, j'ai commencé. Pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir les répertorier, il faut les acheter.
Ouais.
Pour pouvoir les analyser, pour pouvoir.
Ouais.
Donc, en fait, je vais te montrer la collection si tu me donnes une petite seconde.
Oui, certainement.
Donc, j'ai L'Ordre de Jacques Cartier, tome 1, Un mystère en Ontario. On va lire ça au Club BD. C'est un ouvrage qui est publié par le Regroupement du patrimoine franco-ontarien. C'est une BD qui a été faite par Kevin Montpellier et Martin Deschâtelet. Il y en a un des deux qui fait aussi, je crois, de l'animation et du jeu vidéo. Ils en ont fait deux tomes. Ils ont aussi fait deux comic books en anglais qui s'appellent. Il y en a un qui s'appelle Big Nick, puis c'est comme un héros à Sudbury, donc le Nickel, Big Nick. Puis il y en a un qui s'appelle Merv and Vinnie Earth's Finest.
OK.
L'Académie des chasseurs de primes?
Ah, ben oui,
Ben
ben
oui,
oui,
hein?
ben
Parce
oui.
que je crois que c'était Yannick Champeau qui vivait à Ottawa
Oui, Yannick
dans le
Champoux
temps.
et Benoît, l'illustrateur Benoît, qui travaille en animation. Oui, d'ailleurs, Siri, c'est dommage que cette série-là n'ait pas continué. L'Académie des chasseurs de primes aux éditions, dans la collection Rotor, là, c'était vraiment une excellente série, ça.
Ouais.
Ouais.
J'ai Regard Trouble d'Éric Pelladeau ici.
Ah ben oui, Eric, bien
Ben
sûr.
oui, qui vient de Rockland. Là, j'ai quelques Michel Laframboise. J'ai La Plume japonaise qui avait été publiée aux éditions Vermillon, qui est un éditeur franco-ontarien qui a mis la clé sous la porte, malheureusement. Ça, c'est comme un genre de style manga, inspiré par le manga. J'ai Face à l'imprimé obscène, qui est de Gérard Tessier.
Ah
C'est
ben oui.
un de mes essais préférés
Ouais.
à lire absolument. C'est pas
Ah, oh, c'est un
franco-ontarien,
classique,
mais
ça.
il y a un prêtre qui est franco-ontarien, qui est comme. Je pense qu'il est responsable du cinéma au diocèse d'Ottawa qui écrit un réquisitoire contre la bande dessinée, qui est assez fascinant.
Ah oui, hein? Mon Dieu. Ça doit dater un peu, ça, quand même.
Oh, ça date des années 50, je
Ouais, c'est
crois.
ça. En pleine époque, à l'époque macartiste. Ouais.
Le Jardin du Général de Michel Laframboise et Rouégo de Michel Laframboise aussi. Je ne sais pas, c'est peut-être celui-là qui a été publié sur une plateforme. Des ouvrages un peu plus anciens, Les Polytechniciennes, tome 1 et tome 2 de Michèle Laframboise, donc sur l'école polytechnique, parce que c'est là qu'elle a étudié. Je crois qu'elle est ingénieure de métier. Et Maîtresse du vent aussi. Je crois que ça a été publié chez Écofiction de Michèle Laframboise aussi.
Mais tu vois, Marianne, comme tout ce que tu nous présentes là,
Ouais.
loin de moi l'idée de te dire fais ci, fais ça, mais
Non, mais j'ai des choses en tête pour ces
bon,
affaires-là.
parfait, excellent. C'est tout ce que je voulais savoir.
L'Ordre de Jacques-Cartier, tome 2.
Ouais.
Ensuite, on avait des auteurs de BD ici dans la région qui publiaient des trucs plus identitaires. Donc, Éclatant, Histoire franco en Ontario. Ça a été comme plus ou moins. Ça a été publié par le regroupement du patrimoine franco-ontarien. J'ai Le Canadien ici de Hicham Hapsa, qui est du Québec, évidemment, et Buddy Ngoy, ou Ngoy, je ne sais pas comment on dit son nom. C'est sur l'identité noire au Canada. Lui, il vient d'Ottawa. Le rêve canadien, du même duo. Pianissimo, ici, de Michèle Laframboise. Petit Jean fin voleur, dont on parlait tantôt.
Ouais.
Et finalement, Buddy Ngoy, Corinne Sauvé et Éric Thériault qui ont publié Le Rêve canadien.
Non, oui, avec Éric Thériault. Ouais, ça fait quelques années,
Ouais.
ça. Hein?
Ouais, quand même. Il y en avait publié un en ligne aussi avec sur Wilfrid Laurier.
Mais donc, oui, c'est ça. Donc, il y a encore, tu sais, il y a matière.
Il y a du stuff. Il y a du stuff qui se fait, mais c'est beaucoup du stuff identitaire, là, j'ai pas publié des ouvrages que j'ai en format numérique, mais c'est souvent avec la volonté de transmettre une certaine identité franco-ontarienne ou une identité africaine dans certains cas, francophone ou une identité canadienne très
Mais je
forte.
pense que c'est naturel, ça. Tu sais, quand
Ouais, ouais,
on
ouais.
remonte le fil du temps, au début des années 70, tu parlais de pulp tantôt, tu sais, quand on pense à toute cette génération-là qui ont lancé des magazines lors du début du printemps de la bande dessinée québécoise, qu'est-ce que c'était sinon que identitaire, tu sais?
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a ça. Mais tu sais, dans beaucoup de cas, tu sais, il y en a qui sont très, très bonnes, très bien faites, puis il y en a qui c'est autre chose.
Mais c'est oui, mais en même temps, c'est la beauté d'un écosystème qui se développe.
Oui.
C'est qu'on atteint une masse critique où là, on peut tout à coup départager les choses, puis on peut se dire, bon, dans ce panorama-là, ben, il y a de tout. T'sais? Puis
Il y
après,
a
c'est
vraiment de
tout.
tout. Il y a vraiment de tout. Puis, tu sais, là-dedans, il y a de l'aventure, il y a des BD qui sont plus pédagogiques, il y a du folklore. Il y a les BD de Michèle Laframboise, elle a écrit énormément de science-fiction.
Oui.
Donc, oui, il y a quand même... il y a quand même des choses.
Alors évidemment, je suis très, très curieux de voir ce qui va se tramer dans ton esprit parce que ce que tu nous as, l'échantillon que tu nous as présenté là, tu sais, pourrait donner lieu à un projet un peu plus poussé, un portail, ou en tout cas comme un genre d'outil, tu sais, parce que le propre.
Mais c'est pas tous ces ouvrages-là qui sont comme disponibles en bibliothèque ou disponibles en librairie. Il y en a qui sont épuisés ou
Oui,
tu
mais ne
sais,
serait-ce que de les
c'est pas pour
répertorier.
le lecteur lambda, là, il peut pas nécessairement mettre la main sur tous ces
Ouais.
ouvrages-là facilement, là.
Mais c'est ça, c'est que le problème quand on est au Québec, je pense, c'est que là, maintenant qu'il y a une production assez foisonnante, tout ça. Il y a un petit côté autosuffisance où là, tout à coup, on dit, bah ouais, OK, là, ça va de soi, la bande dessinée québécoise. Puis là, ben, des fois, on a tendance à se refermer un peu sur nous-mêmes et de se dire, non, non, dans le reste du Canada, il s'en produit de la bande dessinée. Et Dieu sait qu'il s'en produit de la très, très intéressante et c'est très, très diversifié. Tu sais, je parlais
Puis,
de l'Ouest
on n'a pas
canadien
parlé de l'Acadie, là, parce que j'ai
non
toute
plus.
une collection de livres qui viennent de l'Acadie aussi, qui sont très intéressants aussi, là.
Tout à fait. Moi, je trouve que ce serait donc le fun qu'il existe
Ça
un outil, un portail ou. Bon,
serait
ça serait le fun, hein, Marianne? On
le fun. Ben, si quelqu'un
jase.
a une petite subvention, appelez-moi.
Non, mais
Ça me
pour
ferait
vrai,
plaisir.
mais en plus, sais, des fois, on entend les gens, on entend des récriminations, des reproches concernant les subventions, même si, bon, c'est un autre débat. Mais dans le cadre d'un projet comme ça, je veux dire, ça va de soi, là. Comment peut-on s'inscrire en faux contre un projet comme celui-là, justement, de répertorier, de mettre en contact les gens avec cette production-là qui, autrement, sort du rétroviseur, tombe dans des angles morts. Puis, tu sais, à l'image du pays dans lequel on habite, tu sais, c'est vaste, hein, le territoire est vaste. Et je pense que la production du 9e art canadien l'est tout autant, tu sais.
Ben, c'est des scènes qui opèrent en silo, peut-être, là, tu sais, dans le sens où
Ouais.
il y a une scène à Montréal, il y a une scène à Québec, il y a une scène à Gatineau, il y a des scènes en anglais, il y a des scènes en français. Donc, tu sais, moi-même, je suis un peu déconnectée de la scène, de ces scènes-là, donc je peux pas trop me prononcer, mais oui, il y a des choses qui se font, il faut être un peu curieux, il faut être prêt à aller dans des salons du livre ou des salons de fanzines ou des choses comme ça. Puis aussi d'être branché, je pense dans mon cas, c'est d'être branché sur la communauté parce que souvent, c'est pas par le biais de la BD que ça va se diffuser, mais par le biais de la communauté.
Ouais.
Donc, si tu as un bon réseau communautaire, tu vas apprendre que tel organisme ou telle personne a publié telle chose, tu vas le lire dans ton journal local, dans ton journal communautaire. Tu sais, par exemple, si on a un journal qui s'appelle L'Orléanais, salutations à Jean-Marc Pacelli, son rédacteur en chef, qui est également auteur de bande dessinée,
Tout à
qui s'est
fait.
occupé du rendez-vous de la BD de Gatineau pendant plusieurs années. Donc,
Il a même animé un balado, hein?
ça se peut.
Oui, il a
Faudrait.
animé un balado, ouais.
OK. Ben,
Ouais.
tout ça, c'est ça. C'est d'être branché sur la communauté, je pense.
Ben écoute, Marianne, je te souhaite et je nous souhaite que tu entretiennes ces liens avec ces communautés-là, que les subventionneurs soient à l'écoute, qu'ils soient à l'écoute, parce que je trouve que de ta perspective, de ton positionnement, de tout ton passif, il semble que ça serait un beau projet. Moi, je serais très, 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 très intéressé à prendre connaissance d'un tel projet et à le diffuser dans mes réseaux, hein, parce que.
Ah, ça serait apprécié, mais c'est ce qu'on appelle pour moi un slow burn, là. Tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse tout le temps, mais un peu en arrière-plan.
Ouais.
Ouais.
Mais rien ne presse, hein.
Ah oui, c'est sûr, c'est sûr.
Et puis bon, tu sais, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'envoies un petit courriel, puis je peux t'envoyer des
Ben,
PDF, ça va me faire plaisir.
déjà, je dois le dire là, que grâce à toi et à Francis Hervieux, j'ai eu accès à des archives très précieuses du journal La Pulpe, par exemple. Donc,
Oh oui, je me souviens. Je pense que ah oui, d'ailleurs, c'est là, on s'était
oui.
contacté la
Ben
dernière
oui.
fois. Oui, je travaillais sur le livre de Pierre Fournier, puis je numérisais ses archives. Oui, ça me revient maintenant. Donc, oui, je t'avais envoyé ça. Oui, Francis Hervieux qui est, à défaut d'avoir le terme français vraiment, c'est un pocheur, hein? C'est un pocheur d'archives, Francis Hervieux.
Je connais pas personne qui est aussi bien branché sur le milieu que Francis.
Oui, puis c'est un archiviste aussi, hein.
Et
Donc,
oui, puis il y a une super belle collection aussi, là. C'est
ouais.
vraiment. Non, c'est.
Moi, je
Ce
le remercie.
gars-là, c'est une mine d'or, là, au propre comme au figuré,
Ah, oh, tout à fait. Moi, il est remercié
là.
dans chacun de mes livres,
Oui,
Francis.
absolument.
Il est toujours dans mes remerciements. Il y a un abonnement, là.
Oh ben, on le salue, puis on le remercie.
Oh, ça va sûrement lui faire plaisir. D'ailleurs, j'aimerais ça. Justement, c'est sur mon radar, là, de lui consacrer un épisode du balado à Francis Sérieux. Ça finira bien par arriver. Hey Marianne, toujours un plaisir de discuter avec toi. Vraiment, bravo pour tout le travail que tu as fait et que tu continues de faire en lien avec la bande dessinée. Vraiment, ton bâton de pèlerin, tu le tiens fermement
Merci.
depuis très longtemps et chapeau bas. Vraiment, bravo pour l'excellent travail que tu fais.
Ben merci, mais tu sais, je te renvoie l'appareil, Jean-Dominique, parce que tu sais, comme moi, quand on a la piqûre, là, c'est dur de se sevrer.
Alors, écoute, je te souhaite aucune cure d'une intoxication. Je vais aller à l'encontre de ce qu'on veut généralement dans la vie. Je te souhaite encore de passionnantes lectures, de belles rencontres.
Ben, merci.
Et je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite et au plaisir de te lire, de te voir, de te rencontrer à nouveau et donc de te suivre dans tes différents projets.
Ben, merci beaucoup, Jean-Dominique, puis merci de m'avoir reçu en deux cases. Je suis tellement contente d'être ici aujourd'hui, là.
Hey, tout le plaisir est pour moi, vraiment. Merci, Marianne.
Salut!
Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jeandominiqueleduc.ca. À bientôt.